Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. Depuis 1985, le dispositif Les Inouïs du Printemps de Bourges repère et sélectionne les artistes en devenir. L'appel à candidature est lancé depuis le 14 octobre afin de constituer le cru 2025 qui marquera les 40 ans du dispositif. 40 ans de découverte musicale, un sujet donc spécial pour l'occasion à retrouver en fin d'émission. Telle une simple formule, Abracadabra, le nouvel album de l'artiste québécoise Clopelgag, fait la part belle à la poésie avec une palette musicale saisissante. C'est l'un des albums de la semaine que l'on découvrira avec Lucie de Westrack. Politique et poésie se mêlent dans le second album soutenu par les radios de la Ferrarock cette semaine. Il s'intitule « Pas un bruit » par les musiciennes et chanteuses de Bacchante.
Salut, c'est Yann de Canal B à Rennes. Aujourd'hui dans Dig Dig Diggers, nous découvrons le deuxième album de Bacchante, Pas un bruit, sorti le 11 octobre chez Figure Libre. On en parle avec deux des quatre musiciennes du groupe, Astrid Radig et Faustine Seilman. Pas un bruit. On y entre dans ce deuxième album pour le groupe Bacchante dans le silence. Et puis un synthé égrène quelques notes. C'est doux. Nous sommes vraiment sous les nuages, presque dans les nuages. Des voix, quatre, nous bercent. Dort tranquillement, mais la comptine se termine par ces mots « Dressons-nous ». Donc on n'est pas dans un disque pour endormir les enfants. On va en parler avec deux des musiciennes du groupe. La première, c'est Astrid, tu es en face de moi dans les studios de Canal B. Bonjour Astrid.
Bonjour Yann.
Astrid Radig qui chante, mais pas seulement dans Bacchante.
Non, je fais de la batterie et de la flûte traversière sur ce disque et puis de nombreuses percussions.
De l'autre côté d'Internet, presque, Faustine Seilman. Bonjour Faustine.
Bonjour.
Toi qui chantes aussi dans Bacchante, mais pas seulement.
Moi, c'est les claviers et les voix.
Bacchante, c'est vous deux et aussi Amélie Grosselin et puis aussi Claire Groupalo et puis aussi quelques autres. Revenez à cette histoire au début, en fait. Vous avez eu envie de faire des bacchanales endiablées à quatre filles et puis à aborder la poésie d'autres auteurs ou autrices et la récupérer pour vous.
Pour nous et pour vous tous, j'ai envie de dire. oui, alors Bacchante, on a commencé à jouer ensemble, je crois en 2016, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, on savait pas exactement ce qu'on allait réussir à trafiquer toutes les quatre. Voilà, il y avait une première rencontre pour Astrid et Claire qui ne se connaissaient pas à l'époque. Donc ça a été déjà une rencontre humaine. Et puis très vite, on a réussi à, dès la première répétition, à mettre en musique certains bouts de texte. Et ça s'est fait un peu comme ça. On a choisi des textes un peu sur le vif lors des premières répétitions qu'on a mis en musique. Et en fait, c'est vrai que le ton de Bacchante a été assez vite trouvé et assez naturellement entre nous quatre.
Sur ce disque, on a travaillé avec deux autres personnes, avec Étienne Foyer, qui est notre ingénieur du son live.
Déjà présent sur le premier album.
Voilà, qui nous a enregistré au studio L'Adventis, dans le Finistère. Et nous nous avons demandé à Jonathan Selman, donc le frère de Faustine, de nous arranger voilà ce qu'on avait enregistré. Jonathan a mis sa touche aussi dans ce nouveau disque. On est très contente du résultat.
Il y a dans ce nouvel album Pas un bruit des associations entre sérénité et puis des choses beaucoup plus infernales peut-être. On peut évoquer évidemment les fameuses bacchanales, ces orgies un petit peu, ces fêtes où tous les sens étaient convoqués. Il y a de la légèreté et de la gravité. Comment vous l'avez établi cet équilibre entre sagesse et puis folie aussi?
Bah ça, c'est à l'image de ce qu'on est, je pense, toutes les quatre. On a un fond très très rock'n'roll, très punk hein, au fond de nous quatre, je pense. Avec l'âge, on a appris à l'apprivoiser, mais c'est quand même très présent en nous et je dirais aussi que tout ce qu'on a vécu ces dernières années aussi d'un point de vue sociétal, politique, nous ont aussi donné cette envie d'aller chercher des émotions vraiment fortes quoi. Il y a beaucoup de colère effectivement dans ce disque et ça a été notre moyen je pense à toutes les quatre aussi de canaliser ces élans forts.
Je trouve que c'est aussi une sorte de mélange entre l'intériorité de chacune, une forme de voilà de ouais, enfin comment on vit une forme de spiritualité, on pourrait dire, et puis comme le disait Astrid, avec aussi tout ce qui incombe à la violence de notre monde. Ce qui est extériorisé plus du coup par ces grandes envolées un peu plus dynamiques, on va dire, dans ce qui est le son. Ouais, moi je vois vraiment un mélange de ces deux états qui sont un peu indispensables pour trouver justement un équilibre dans ce monde un peu particulier.
Nous avons entendu Sous les nuages, c'est comme ça qu'on entre dans Pas un bruit. On va écouter un extrait du titre Les oiseaux avec un texte de Saint-Paul Roux et on en parle juste après que vous avez entendu ce début de morceau. Moi qui me fait penser au Velvet Underground qui jouera un titre de folk gothique assez menaçant, mais ça va changer. Une évolution qu'on n'imaginait pas au début forcément sur ce titre-là et qui se poursuit de manière espiègle comme ça pour nommer tous ces oiseaux. Un morceau qui s'élève en fait, il est un peu plus pesant au début et puis ça s'élève, ça devient un morceau au rythme effréné propice à la transe. Est-ce que dès l'écriture du morceau vous savez comment ça va aller ou alors vraiment il y a cette alchimie qui se fait entre vous et le morceau se construit grâce à chacune d'entre vous qui vient ajouter une pierre à ce que l'autre avait posé auparavant.
Les morceaux prennent beaucoup, beaucoup de temps. En fait, on en reparlait ce week-end là avec Faustine et Amélie. Certains morceaux ont 5 ans, 6 ans d'existence déjà. On les jouait déjà sur notre live du premier album. Certains ont été faits de manière très intuitive, très rapide sur ce nouveau disque. Et d'autres ont vraiment pris des années, quoi. Donc, on les fait petit bout par petit bout, quoi. C'est du canevas, les morceaux de Bacchante.
On revient dessus beaucoup, on retravaille des passages, parfois on semble d'accord à la fin d'une session de répétition, toutes les quatre sur un morceau, et puis au final, la session qui suit, on remet tout en question, ou en tout cas une bonne partie en question, et c'est remis en travail. C'est vrai que le disque a mis beaucoup de temps à se faire. Mais comme disait Astrid tout à l'heure, je pense qu'on a au final, voilà, aujourd'hui, on est très contente du résultat parce qu'on a été, au bout de quelque chose vraiment artistiquement. Et c'est vrai que construire à quatre, parce qu'il n'y en a pas une qui amène un morceau plus qu'une autre, on construit vraiment tout à quatre. Et ben, ça demande une écoute. Ça demande aussi des compromis, ça demande vraiment beaucoup de choses et du coup ça demande aussi beaucoup de temps.
La manière dont vous choisissez les textes que vous allez transformer pour certains, pas tous, il y en a qui sont gardés tels quels, il y en a qui sont un peu modifiés, et là des textes de Aloysius Bertrand, de Griselidis Réal, de Gérard de Nerval ou de Saint-Paul Roux, et puis d'auteurs et de poètes, poétesses plus contemporaines, qui choisit cette matière-là et comment vous la transformez?
On va dire que c'est surtout Claire Groupalo qui a ce rôle-là. Voilà, elle, c'est des textes qu'elle a déjà, explorer, lu, dont elle entend une musicalité évidente, et ensuite, elle nous les propose. Alors certains font écho, font résonance, et puis effectivement, faut que le texte soit. On en a essayé d'autres, hein, mais c'était pas aussi musical ou on se projetait moins dessus. Et puis pour les auteurs contemporains, je laisse la parole à Faustine.
Sur ce disque, il y a aussi des textes qui ont été écrits par Bacchante. Dans le choix des textes, autrement des poètes et poétesses dans ce choix-là, certes, Claire, elle amène beaucoup de textes, mais aussi on les lit. Enfin, il n'y a pas que elle qui fait, oui, le choix en amont. Elle nous fait des propositions, on les lit, on les essaie sur la musique. Il y a aussi tout un travail pendant les répétitions qui se fait. Et si au niveau de la cohérence du corpus aussi, parce qu'en fait on utilise des textes quand même d'esthétique bien différente. Il y a des romantiques, il y a des symbolistes, il y a des poètes plus ou moins contemporains, et puis de la poésie écrite vraiment par des amis ou nous-mêmes. Et du coup, il fallait quand même aussi trouver une sorte de fil pour que raconter une histoire aussi au sein du disque, et que les textes ne paraissent aussi pas trop disparates les uns à côté des autres. Et je pense que on a réussi à trouver le moyen d'écrire un vrai récit, en fait, même que ça soit au niveau de la musique et en même temps au niveau des paroles. Je trouve que c'est assez cohérent.
Aux rivières, aux lits, aux fontaines, aux rivières.
avez entendu la première partie de ce titre Eau Fontaine, un morceau répétitif léger comme ça jusqu'à son milieu où là ça va un peu basculer, on va aller ailleurs avec quelques salves de guitare électrique, des harmonies vocales, on vous entend toutes. On peut pas juste en une écoute se faire une idée de ce que c'est ce disque parce qu'il y a beaucoup de petits détails qui viennent se révéler au fur et à mesure. C'est ainsi que vous l'avez conçu?
Oui. C'est un disque qui s'écoute très bien en voiture. C'est un disque de voyage, par exemple. Ou un disque qui s'écoute sur des moments un peu d'introspection, je pense. Il s'écoute pas... moi, je l'écoute pas en faisant la cuisine, par exemple. Quoique.
Moi, je dirais que oui, effectivement, c'est pas un disque... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qui est donné comme ça... Enfin, je sais pas comment trop exprimer les choses, mais comme tu le dis, Yann, c'est un disque où j'ai l'impression qu'il y a, il y a vraiment plein de petites choses à entendre, et c'est pas un format de chanson très très standard aussi, et donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu compliqué de lui trouver même un style. Voilà, on pourrait dire ça c'est pop ou ça c'est rock ou ça c'est voilà. Et c'est vrai qu'on a du mal même nous à définir ce qu'on fait et on nous le demande beaucoup en fait de trouver une étiquette. Ça a l'air d'être quelque chose d'important dans le monde de la musique, de trouver des étiquettes pour définir les choses. Et nous, on se trouve quand même assez confrontés à ce problème de pas savoir trop comment nous définir. Donc là, c'est rigolo parce que je t'entends dire des mots comme folk gothique ou enfin et en fait finalement les gens en trouvent mieux que nous mais peut-être sur un morceau ou deux morceaux une manière de le définir, mais pour définir l'entièreté, je sais pas si ça se dit trop, l'entièreté des morceaux et des corpus de texte et tout ça. Je trouve ça complexe de... Donc oui, c'est pas donné, voilà, ce que je voulais ajouter.
On retrouve sur cet album, cette chanson qu'on va écouter, sans doute pour terminer cette brève discussion avec Astrid et Faustine du groupe Bacchante, cette chanson du masque d'Aloysius Bertrand, un extrait de Gaspard de la Nuit, où on entendra ces paroles « Chantons, dansons, nous qui sommes joyeuses, dansons et chantons, nous qui n'avons rien à perdre ». On entend dans cet album de Bacchante pas un bruit, et bien des moments uniquement poétiques, d'autres politiques et poétiques en même temps. On sent une conscience aiguë du monde qui semble aller n'importe comment, mais c'est pas qu'il semble, c'est qu'il va n'importe comment. On entendait une supplique au fait d'épargner les oiseaux tout à l'heure. Ça peut paraître naïf comme ça, mais c'est très sérieux, j'en suis sûr. Vous arrivez à mélanger, ouais, c'est ça, la politique et le poétique. Ça vous tient à cœur d'avoir ces deux chants-là et d'autres encore autour au sein de Bacchante.
Ouais, on a un autre morceau, le morceau du premier album qui s'appelle Fier Tyran, donc c'est pas un texte qui est de nous, mais je pense vraiment que quand on joue toutes les quatre, on est très concentré sur notre colère politique et on sait très bien à qui on adresse ce morceau. Et je pense que ça se ressent en live. Mais ouais, Bacchante, c'est un projet qui est engagé, on a des vraies convictions et... on transmet cette énergie et on est là aussi pour donner de l'espoir aussi aux gens et leur dire qu'on est là, on est avec eux et qu'on
est ensemble.
Qu'on est ensemble surtout.
Tous ensemble. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça en tout cas. Après, j'ai pas eu la sensation qu'on créait des chansons politiques ou politisées. Mais c'est sûr qu'en fait, dans le choix qu'on a fait et dans les morceaux qu'on a pu écrire, et dans la manière dont on a, surtout je trouve, de les jouer en live, parce que quand on les joue en live, on les joue aussi dans un autre ordre et on enchaîne des choses qui disent les choses encore autrement, je trouve. Et le fait d'être présente sur scène et d'avoir cette présence corporelle et d'être dans nos corps et que le public puisse voir aussi dans quel état, entre guillemets, ça peut nous mettre de jouer ces chansons, je pense que c'est aussi là que ça se joue, ce côté un peu... politique.
Oui, on a un morceau aussi qui s'appelle Politique du premier disque, donc oui, effectivement, il y a y a de l'engagement.
Et vous avez entendu la fin du premier titre Sous les nuages tout à l'heure. Dressons-nous. Si ça, c'est pas un encouragement à ne pas accepter les chaînes et les joues, je crois que je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que vous faites. Et merci de le faire. Merci Astrid Radig. Merci Faustine Seelman. Merci aussi à vos complices Amélie Grosselin et puis Claire Gropalo. On parlait de Pas un bruit, nouvel album de Bacchante, sorti le 11 octobre sur le label Figure Libre.
Merci.
Merci pour l'invitation.
Nous parlions dans Dig Dig Diggers avec Faustine Seelman et Astrid Radig du groupe Bacchante à propos de leur deuxième album Pas un bruit, sorti le 11 octobre chez Figure Libre. À signaler la superbe pochette conçue par Alexandra Pouzet. Pour écouter cette émission, c'est sur ferrarock.org.
Clopelgag est une auteure, compositrice, interprète et musicienne québécoise acclamée par la critique française et internationale. Elle sort son quatrième album nommé Abracadabra. La magie prend forme grâce à un univers unique que l'on découvre tout de suite avec Lucie de la radio Westrack.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une artiste que vous connaissez sûrement par son univers musical unique et poétique, c'est Clo Pelgag. Bonjour Clo, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, mais ça me fait plaisir.
Vous avez commencé à vous faire connaître en 2013 avec ce premier album, L'Alchimie des Monstres. Depuis, on a pu voir se construire un univers très personnel, je dirais à la fois audacieux et onirique. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ses débuts et ce qui vous a poussé à devenir musicienne ?
Ah, très très grande question. Ce qui m'a poussée à devenir musicienne, probablement que c'est une certaine une amitié que j'ai découvert pour la musique, mais aussi un besoin de m'émanciper à travers elle, puis de découvrir qui j'étais à travers elle. Mes débuts en musique, j'ai commencé en 2013, mon premier album est apparu en France en 2014. J'ai fait énormément de tournées en France, Belgique, et puis au Québec aussi. Et ça a été des années vraiment fondatrices où j'ai découvert aussi ce que je voulais faire plus comme musique, ce que j'avais envie de vivre quand je chantais, quand je faisais la musique. Donc je pense que ça a été la tournée pour moi un très grand marqueur de ce qui est devenu ma musique par la suite, aussi sur disque.
Et vous êtes autodidacte à la fois piano, guitare, dans le chant, ce qui est assez impressionnant. Est-ce que ce serait possible de nous parler de ce parcours d'apprentissage en solo et qu'est-ce qui vous a motivé à apprendre ces instruments par vous-même?
Étrangement, quand j'étais enfant, j'ai jamais eu d'attirance pour devenir musicienne ou chanteuse, vraiment. Donc c'est vraiment tardivement, vers la fin de l'adolescence où j'ai commencé à écrire des chansons. Donc par la force des choses, j'ai dû être la personne qui allait les chanter parce qu'il y avait personne à côté de moi. Donc c'est de cette façon-là que j'ai commencé à chanter, puis à écrire, à jouer du piano, à apprendre des instruments, puis au fur et à mesure que tout ça a évolué, puis à créer des arrangements, puis à peaufiner ma pratique, puis c'est ça, à développer ma pratique.
Je voudrais
quand on recherche votre nom, on voit souvent la qualification de baroque, parfois surréaliste, avec des métaphores dans les textes. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer? C'est une influence que vous avez?
Mais je pense qu'au départ, j'ai beaucoup parlé de surréalisme, donc les gens m'ont associé à ça. Mais je pense que oui, au départ, dans mes premières chansons, il y avait quand même cet aspect-là, comme un pouvoir d'évocation ou un désir d'être plus dans la métaphore. Mais avec le temps, ça s'est transformé dans une écriture qui demeure assez poétique, je crois, mais qui est de plus en plus directe, puis de plus en plus dans l'économie des mots, dans la simplicité. Mais ouais, toujours avec quand même une part de poésie à l'intérieur, je peux pas faire autrement.
Une envie de transmettre directement le message, mais de l'enrober avec quelque chose de poétique. Qu'est-ce qui inspire justement ces chansons et ces titres?
Je pense que je parle toujours de réelles choses. C'est la base des chansons, c'est vraiment des sentiments, puis des émotions fortes, des choses que j'ai besoin d'extirper de moi-même. Dans ma façon de m'exprimer, je pense que dans l'écriture, il y a quelque chose qui m'habite, qui peut pas exister en fait dans la vie quotidienne, parce que on se parle comme on se parle pour être compris, mais il y a cette liberté là qui peut exister dans la musique puis dans l'art, qui est une façon différente de s'exprimer, qui correspond encore plus, je crois, à intrinsèquement. C'est pour ça que je pense que je me sens encore plus moi-même dans mes chansons que dans la vie quotidienne.
Et c'est un petit peu le cas aussi, j'imagine, dans Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est à la fois très intime et universel. D'où vient ce titre, mais aussi l'univers de cet album?
Donc, l'album précédent, c'était inspiré par un endroit qui s'appelle Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est au Québec, qui est un petit village, en fait, qui est une île, mais que j'ai découvert tardivement, parce que c'était un panneau que je voyais sur le bord de la route depuis que j'étais tout petite, et je le voyais, et c'est un nom qui me faisait peur, Notre-Dame des Sept Douleurs, que je redoutais, puis j'imaginais cet endroit-là comme étant un endroit terrible. Puis un jour, à la fin de ma vingtaine, je suis allée visiter cet endroit qui était en fait une île avec très peu d'habitants, un endroit qui m'a vraiment ébloui par sa beauté, sa simplicité, puis sa pureté. Ça faisait vraiment écho avec ce que je vivais à ce moment-là, qui était comme une angoisse profonde, et le chemin parcouru pour me défaire de cette angoisse-là. Donc, l'album précédent, c'était vraiment des chansons qui tournaient autour de ma traversée dans le brouillard et puis vers un état un peu plus lumineux.
Et c'est aussi cette traversée, donc, de quitter cette idée d'enfant aussi, d'un lieu qui peut nous faire peur, et d'oser y aller une fois et de se rendre compte qu'en fait, ce lieu cache autre chose que ce nom qui peut faire peur à première vue.
Exact. Ouais, exact. Et aussi, je pense, ça peut faire référence aussi à la peur de l'inconnu, puis qui existe vraiment très fortement en ce moment dans la société. La peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Mais de quand on pousse un petit peu, quand on va plus loin là-dedans, on découvre quelque chose qui est souvent la même chose que nous, tu sais. Des êtres humains et puis une simplicité.
Est-ce que parfois c'est plus facile de s'exprimer à travers la musique que directement en s'adressant à quelqu'un, par exemple, pour lui dire des choses qui peuvent être difficiles à dire?
Ah, je pense que oui, je pense qu'on ne dit pas tout aux gens auxquels on se confie. Tu sais, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, puis qu'on garde pour soi. Puis dans la musique, c'est là où on peut vraiment tout mettre, même des choses qu'on ne comprend pas de nous-mêmes, puis des choses qui ont pas, dont il n'existe aucun mot pour décrire. C'est la part que la musique peut amener puis combler, en fait.
Les retours du public sur cet album ont été positifs. Comment vous avez vécu l'accueil justement de cet album dans lequel vous avez mis tout votre cœur et votre intimité?
Ah ben, c'est sûr que quand on fait de la musique, on le fait pour soi en premier lieu, mais si ça peut rejoindre plus de personnes, faire du bien à plus de personnes qu'à soi-même, c'est l'idéal, c'est un monde idéal. Et ouais, j'étais vraiment contente de savoir que... Mais je suis vraiment heureuse de savoir que ma musique puisse faire son chemin dans le cœur de d'autres personnes que le mien, puis... Ça me donne la sensation d'être utile quelque part. Parce qu'en faisant de la musique, on peut aussi souvent se sentir un peu inutile. Puis, ben, de savoir qu'elle est partagée, il y a quelque chose qui comble une partie d'insécurité, ouais, probablement.
En tant qu'artiste, vous avez déjà exploré différents territoires musicaux. Est-ce qu'il y a d'autres projets en tête pour la suite? Peut-être même d'autres collaborations, des envies en particulier?
Ben oui, en fait, moi, j'aimerais beaucoup collaborer plus avec d'autres artistes, faire des projets collaboratifs. Aussi, ben j'ai toujours la volonté de faire de la tournée, d'aller sur des nouveaux territoires. Mon dernier album, Programme des douleurs, m'avait permis justement d'aller au UK, t'sais, d'aller au Japon. Il avait résonné au-delà de la langue. Donc c'est quelque chose qui m'a ouvert à ça, puis qui m'a permis de croire que c'était possible de, en tant que francophone, d'avoir sans se travestir nécessairement, comme sans changer sa langue, sa façon de parler, de toucher d'autres personnes qui ressentent les choses au-delà d'un texte. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être une ambition que j'ai avec mon nouvel album Abracadabra. Je peux pas changer, moi. J'ai pas envie de changer. Puis je suis québécoise, hein, donc dans ma culture, il y a aussi un besoin d'affirmation, puis une quête identitaire, un besoin d'affirmer notre identité. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de comment je suis, puis de comment j'aborde les choses. J'ai pas envie de chanter en anglais pour aller vers un public anglophone. J'ai aucun mal à me dire que mon objectif, c'est pas nécessairement de rejoindre la masse puis le plus de personnes possible, c'est juste de rejoindre les personnes qui vont être touchées par ça. Puis si c'est des salles de 400 places, ça, c'est des salles de 400 places, puis moi ça me convient, tu comprends? C'est comme, ben, à la fin de ma vie, je vais être fière de ce que j'ai fait, puis je veux sentir que j'ai été authentique dans ma musique puis dans ma démarche. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi.
Qu'est-ce qui se passe quand on monte sur scène et qu'on partage sa musique, cette fois-ci non pas avec un public qu'on ne voit pas, qui écoute et qui donc savoure notre musique chez eux, mais cette fois-ci en face de nous, direct avec le public, qu'est-ce que ça fait?
Ben, c'est la meilleure chose au monde, en fait. Moi, j'adore faire les spectacles, c'est là où on rencontre les gens, puis où on saisit vraiment le pouvoir de la musique, puis où ça devient un échange, puis c'est plus un truc pour soi-même, ou c'est plus un truc nécessairement abstrait, où on peut recevoir de la reconnaissance des gens qui écrivent, qui aiment notre musique, mais de le voir en vrai puis de sentir cet échange-là, je trouve que c'est la plus belle chose, en fait. C'est ça pourquoi je fais de la musique probablement aussi à quelque part. C'est pour vivre ces moments-là. Puis même avec mon band, avec les musiciens avec qui je joue, de vivre une genre de cohésion puis un état qu'on retrouve pas ailleurs dans la vie.
Donc, il y a un nouvel album qui vient de sortir cette année, Abracadabra. Est-ce qu'il y a du coup une envie de tourner pour ce nouvel album et d'aller rencontrer ce public, justement?
Mais oui, absolument. On va être en tournée en mars en Europe, puis probablement en été 2025 aussi. Puis, ouais, l'album va se promener, on va faire de la tournée, on va avoir le feu aux fesses, quoi.
Plein de choses à venir. En tout cas, merci beaucoup, Clopelgag. Donc, on peut retrouver l'album Abracadabra et puis on espère vous voir prochainement dans nos villes en tournée. Bonne journée.
Merci. Bye bye.
J'arrive à la moitié du pont. Je marche à toi. Peut-être à te laisser dans une lettre.
l'accent sur les découvertes, les talents de demain, les inouïs du printemps de Bourges.
Pour découvrir de nouveaux artistes sélectionnés par le tremplin des inouïs.
Des inouïs du printemps de Bourges.
Inouïs du printemps de Bourges.
Je regarde le feu, il est passionnant.
Ce que l'on n'a jamais entendu, qui est sans exemple, incroyable et extraordinaire. Et les Inouïs du printemps de Bourges, c'est un peu tout ça à la fois. Depuis maintenant 40 ans, ce dispositif défriche sur tout le territoire la jeune garde qui fera l'actualité musicale de demain. En 40 ans, ce sont des centaines d'artistes qui sont passés par ce réseau au tout début de leur carrière. On note Christine and the Queens en 2012, Fakir et Tilastine en 2014, Fishback en 2016, Eddie De Preto en 2017 et plus récemment, une auteure, compositrice et interprète qui a connu une ascension fulgurante depuis son passage aux Inouïs en 2022. C'était un an avant la sortie de son premier album, La Symphonie des Éclairs, l'artiste Zao de Sagazan. On la recevait sur le plateau de la Ferrarock le 21 avril 2022 pour nous parler de son projet et en voici un extrait.
Bonjour Zao et bienvenue.
Bonjour. Merci.
Merci d'avoir, d'avoir accepté l'invitation. Alors toi, on t'a découvert assez récemment, hein, t'as commencé les concerts en fin 2021, si je dis pas de bêtises, et t'enchaînes. Il y a 2 semaines, tu remportais le prix Chorus, un prix du département d'Île-de-France. Ensuite, tu enchaînes avec Panorama et à peine fini, tu as pris le train pour arriver à Bourges où tu passes la semaine puisque tu es un talent inouï de cette programmation, de ce festival. Alors déjà, est-ce que tu comment tu le vis toi cette précipitation autour de ton projet Zao de Sagazan?
Ah bah moi c'est que du bonheur, moi je suis ravie de pouvoir autant tourner, c'est trop bien. Non franchement c'est que du bonheur, je n'ai rien d'autre à dire que kiff, quoi.
Que tu vis sur l'adrénaline depuis quelques semaines, quelques mois même. Alors on a tendance à dire que ton premier concert c'était en octobre 2021 en première partie de Mansfield Tia au Trianon, mais toi tu contredis ça, hein. La correction c'est que tu as joué en piano voix pour l'inauguration d'une agence Stéphane Plaza.
Tout à fait, il y a maintenant très longtemps de ça et on a fait une petite pause entre temps et puis on est revenu après pour le premier dans le cœur. Effectivement c'est plutôt le Trianon. En tout cas, c'est plus classe. Ouais. Dans l'histoire, c'est un peu plus classe.
Tu as 22 ans. Tu as commencé quand la musique, Zao? Comment t'es tombée dedans?
Moi, j'ai commencé, je devais avoir 13 ans à peu près. Et j'ai découvert, je faisais beaucoup de danse et puis j'ai arrêté la danse parce que j'en avais un peu marre. Et du coup, je me suis beaucoup ennuyée et je suis tombée sur le piano qu'il y avait dans le salon. Et j'ai tenté d'imiter mon idole de l'époque qui était Tom Odell. Et j'ai adoré, je suis tombée amoureuse tout de suite. Et je n'ai pas arrêté après de faire du piano-voix pendant très longtemps. Et puis s'en est suivi après quelques années de rencontrer Pierre Cheguillaume et Alexis Delon. Là, on a commencé à faire de la musique un peu plus électronique. Mais ça fait depuis mes 14 ans, je dirais, que je chante tous les jours.
Alors c'est justement aussi sur les réseaux que Mansfield, Tia puis Hervé t'ont repéré et t'ont invité à jouer en première partie de leur concert. Toi, comment t'as vécu ce moment? Est-ce que t'avais déjà fait de la scène? Parce qu'on a des échos quand même que tu es une sacrée bête de scène, que t'as vraiment une énergie assez incroyable.
Moi j'avais pas fait. J'avais du coup fait de la scène avec ce projet donc Fears, mais en tant que claviériste chanteuse, donc j'étais debout comme un piquet à faire des accords plaqués, donc c'est pas là que j'ai découvert mon côté un peu bête scénique, mais je m'étais beaucoup inventé de faire de la scène dans ma chambre toute seule, donc j'étais déjà à fond là-dedans. Mais non, c'était vraiment mon premier concert debout à devoir parler à un public. Effectivement, c'était au Trianon avec Mansfield Tia, tout à fait.
Alors tu portes un amour tout particulier à la chanson française. Tu disais dans une interview que c'était pour toi une évidence. Là on est au printemps de Bourges, donc il y en a quand même, on a une belle programmation. Est-ce que tu t'es promené un peu? Quel concert tu as pu voir depuis que tu es ici?
Eh ben moi je vais surtout voir les Inouïs, pour tout te dire, parce que je trouve que c'est un très beau moment de voir tous ces gens qu'on connaît plus ou moins, mais un peu de loin, et qu'on découvre de manière très naturelle. Et tout d'un coup, tu les vois dans leur personnage de scène, et c'est toujours très impressionnant, et moi je trouve ça très très touchant. Et donc je n'en rate pas un, donc je vais surtout voir les Inouïs, ça prend quand même pas mal de temps, tu vois. Je pense aux pros qui font ça toute la journée, ça prend du temps, mais c'est très agréable. Et sinon, je suis allée voir Brigitte Fontaine, que j'adore hier. Je suis allée voir Fishback aussi, que j'aime beaucoup. Et puis il y en a d'autres encore que je vais voir, mais ouais, c'est surtout les Inouïs.
fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant.
Zao de Sagazan sur le plateau de la Ferra Rock en 2022 en tant qu'inouï du Printemps de Bourges. C'était donc avant la sortie de son premier album, sa nomination et sa victoire dans 4 catégories aux Victoires de la Musique et avant également sa reprise de Modern Love au Festival de Cannes. Puisque c'est ça, les Inouïs du Printemps de Bourges, transporter et propulser la création et l'émergence sur le devant de la scène. En s'appuyant sur 28 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnels, ce réseau unique, piloté par Réseau Printemps, permet le développement et la professionnalisation des projets artistiques émergents et offre la possibilité aux artistes, groupes, de rencontrer professionnels et publics. L'appel à candidature pour la saison 2025 a débuté le 14 octobre et court jusqu'au 12 novembre. À l'issue de cette grande phase de sélection nationale, les artistes retenus se produiront en live pendant le Festival du Printemps de Bourges. Ils bénéficieront également d'un parcours d'accompagnement et de différentes résidences artistiques pour se préparer à la tournée des Inouïs. Pour parler de cette édition spéciale anniversaire, on reçoit la directrice de ce réseau, Rita Sarrego. Bonjour Rita.
Bonjour.
Est-ce que du coup tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type d'artiste qui est représenté et comment se fait la sélection?
Il va avoir une première phase de présélection qui se fait en région, c'est-à-dire que chaque antenne territoriale va composer un jury régional. Ce jury va écouter toutes les candidatures qui auront été envoyées par région. Ils vont en sélectionner un certain nombre. Ils vont partir du principe on a aimé un certain nombre. Maintenant, on veut les voir sur scène, voir ce que ça donne, ces artistes et groupes, comment ils évoluent sur scène, comment ils tiennent 30 minutes de live, est-ce qu'ils ont du répertoire. Et donc, on va organiser 30 concerts sur toute la France, ce qu'on appelle nous des concerts auditions régionales. Ce sont des concerts gratuits. Avec du public. Donc, il n'y a pas de décision qui est prise à la fin de ces concerts. Il y aura encore une autre phase de sélection qu'on appelle, nous, la sélection nationale, où là, toutes les antennes vont se réunir avec des conseils artistiques, parce qu'on en a 5. Ce sont des conseils artistiques qui sillonnent la France et qui, aux côtés des antennes, vont aussi sélectionner les artistes. Il y aura aussi l'équipe de programmation du Printemps de Bourges et au bout d'une dizaine de jours, on va sélectionner la trentaine d'artistes et groupes qui seront les Inouïs de l'année et qui iront au Printemps de Bourges.
S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
La particularité des découvertes à l'époque et aujourd'hui des Inouïs, c'est d'avoir toujours proposé une diversité artistique. Il y a toujours eu de la place pour le rock, la pop, la chanson, les musiques du monde, l'électro, enfin toutes les musiques électroniques et le hip-hop, ça dès 1985 et encore aujourd'hui. Après, c'est l'évolution en 40 ans de la musique française qui a fait que pendant les années 80, 90, il y avait plus de rock. À un moment, il y avait plus de musique électronique. Après, c'était le rap. Aujourd'hui, c'est vrai on a beaucoup de mal à classifier, en tout cas, mettre des étiquettes sur des musiques et que tout est un peu hybride. Il y a de l'électropop, rap, de la chanson rappée, électro, enfin tout est un peu mélangé, mais c'est ça qui fait aussi la richesse des Inouïs et du dispositif 40 ans après.
Donc 40 ans de découverte. Donc vous avez vu passer pas mal de générations d'artistes. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aux prochaines générations d'artistes? Est-ce que vous auriez quelques mots pour elles et eux?
Bah, qui continue à créer et à oser, je pense que ça vaut toujours la peine de tenter sa chance et de toujours essayer d'être soi-même. Voilà.
Merci beaucoup Rita.
Merci en tout cas.
Et nous finirons ce sujet en écoutant Jean, le lauréat des Inouïs 2024 et son titre Arrête de faire comme si.
Conseil de parier sur moi. Tu prends le temps de me demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Si je te réponds vraiment, ça me paraît sournois. Je réfléchis, les idées qui apparaissent sont noires. J'attends même si je sais que t'écouter c'est lourd. C'est jamais fini, mais c'est jamais assez long. De toute façon, j'ai craqué, donc réouvre le cello. Alcool ou drogue, et si c'est pas là, c'est l'autre. Ne demande pas mon avis, souvent ce qu'on pense, c'est l'opposé de ce qu'on affirme. Arrête de faire comme si tout allait bien. T'as les yeux dans la fumée, le nez dans la farine. Pourquoi tu me poses des questions qui ont des réponses que tu regrettes? T'es allé trop vite et les pneus de la voiture crèvent. Mais tu t'en veux même pas, t'as déjà oublié la veille. Oh, arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Pour me mettre en question, j'attendrai demain. Me regarde pas comme ça, j'ai presque peur. Ah. Oh, hey, salut, ça va? Tu m'as répondu, je suis pas sûr. Ça va, c'est bon, c'est maintenant stop. Les esprits tombent, les vêtements stop. Oh, hey, je sais que c'est ça. Ça me plaît, mais ça peut s'annuler en 7 messages. Même si j'ai bien qu'au fond, c'est ça le blême. Faut mieux pas regarder ça de près. J'ai mal dessiné chaque trait. Arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Pour me mettre en question, j'attends.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. Folk baroque et esprit punk se rencontrent dans le deuxième album de Bacchant. Pas un bruit est sorti le 11 octobre sur le label Figure Libre et vous était présenté par Yann de Canal B.
Quant à l'artiste québécoise Clopel Gag, elle réaffirme ses capacités de compositrice avec son 4e album, Abracadabra, sorti le 11 octobre via Secret City Records. Et enfin, nous clôturions cette émission avec un sujet spécial anniversaire pour les 40 ans du dispositif Les Inouïs du Printemps de Bourges, dont l'appel à candidature court jusqu'au 12 novembre. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les artistes et festivals soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.